Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble le bon conseil de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Et nous allons faire une lecture un petit peu longue, mais je pense nécessaire, à partir du verset 12. Nous lisons ensemble. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens. » ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire et à vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Au verset 42, nous lisons, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le verset 46 nous dit, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Amen. Amen. C'est un enseignement extraordinaire que Jésus expose aux hommes religieux. Il y a là vraiment un enseignement et c'est pour cela qu'il m'a semblé bon de faire cette lecture parce qu'on y voit là vraiment un cheminement, un enseignement de la part de Jésus-Christ aux pharisiens. Mais il n'y avait pas que les pharisiens, il y avait les juifs. Et il y avait là plusieurs choses, et Jésus-Christ va dire des choses mais merveilleuses. Je pense que on ne pourrait pas en une vingtaine de prédications voir, comprendre tout ce que Jésus a voulu dire. Mais ce soir, j'aimerais qu'en trois points nous puissions voir cet enseignement, ce cheminement dans lequel Jésus veut nous amener, parce qu'il a toujours ce souci de nous faire réfléchir, de considérer sa parole, là où il veut nous amener pour qu'on puisse être éclairé, parce que comme nous l'avons lu au début de ces versets, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et s'il est la lumière du monde, c'est parce qu'il a ce souci constant d'éclairer nos vies pour que nous puissions connaître la véritable vie. Le titre de ce message que j'ai donné, c'est « Plus esclaves, mes fils ». Et on le verra un petit peu après. Le premier point, tout d'abord, que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, c'est cette phrase que Jésus va dire « Vous jugez selon la chair ». Il y avait là, et je le répète parce que c'est extraordinaire, Jésus va révéler qu'il est la lumière du monde. Jésus nous révèle qu'il est capable de nous guider, de nous mener sur ce chemin qu'est le monde, de nous mener dans la bonne direction pour qu'on puisse expérimenter la vie. Mais les hommes ne vont pas du tout le comprendre. Ils vont dire « mais ton témoignage n'est pas vrai ». Ils vont dire « mais ce que tu nous racontes, et je paraphrase, n'est pas la vérité ». Autrement dit, ils vont dire à Jésus mais tu es un menteur. Et on comprend pourquoi plus tard Jésus va revenir sur le mensonge. Mais ces hommes-là qui étaient plongés dans la loi, qui étaient plongés dans l'écriture d'une manière tellement stricte qu'ils avaient des œillères dans les yeux, sur les yeux, ça les empêchait de voir la réalité de la vie. Ça les empêchait d'être guidés vers Jésus-Christ, alors que Jésus, dans sa compassion, se révèle en disant mais venez vers moi, je suis la lumière, venez parce que je peux vous guider. Les hommes vont être sur un registre totalement différent parce qu'ils avaient sans cesse ce désir de vouloir piéger Jésus-Christ. Et c'est alors que Jésus va leur dire mais vous vous jugez selon la chair. Et on pourrait traduire cela d'une manière peut-être différente, mais qui veut dire la même chose. Jésus pourrait dire, et c'est peut-être le cas d'une personne ce soir, mais vous essayez de comprendre avec votre intelligence. Vous jugez selon votre intelligence. Vous essayez de saisir les réalités spirituelles selon peut-être vos émotions, votre parcours de vie, votre expérience que vous avez emmagasinée au fil des années, dans les épreuves que vous avez passées dans ce monde. Peut-être que vous pouvez dire comme certains, mais ce qui me tue pas me rend plus fort, et ainsi de suite, l'homme se constitue, se construit dans le monde par rapport à sa propre sagesse. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre ce soir, c'est que le salut, puisque bien sûr ce soir il est question du salut, il est question de nos âmes, il est question de l'éternité. Il n'est pas question, comme nous l'avons chanté, de voir cette porte fermée. Ce n'est pas notre désir. Et s'il y a des réunions comme celle-ci, c'est pour que nous puissions apercevoir l'amour de Jésus-Christ, pour que cette porte puisse rester ouverte le jour où Jésus-Christ va rentrer, va revenir. Vous jugez selon la chair. Est-ce que nous, quelquefois, alors que nous partageons la parole, alors que peut-être chez nous, nous lisons quelques versets, nous ne sommes pas à l'image de ces pharisiens qui disent « mais ce que je lis n'est pas la vérité, ce que j'entends n'est pas la réalité, ce que je comprends n'est pas en accord avec peut-être ma perception des choses ». Et ainsi, je pense que nous devons évoluer, nous devons comprendre que le royaume de Dieu ne se gagne pas, ne s'appréhende pas avec notre sagesse, notre intelligence, mais avec notre cœur. Dans cette réponse à l'amour de Jésus-Christ qui est venu se donner parce qu'il avait ce souci de nous, de notre personne et de notre vie. L'apôtre Paul dans une de ses épîtres à d'autres personnes va employer la même image. Et c'est un passage que j'affectionne. Il va dire, ce texte se situe dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et il va rajouter, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Autrement dit, il est en train d'expliquer qu'à un moment donné dans notre vie, c'est possible de connaître Christ seulement par l'intelligence. Mais dans l'exposé qu'il va faire après, on comprend que ça nous bloque. On comprend que le souci de Jésus-Christ, c'était de faire comprendre à ces hommes religieux, à ces juifs, à ces personnes qui étaient là, que l'important, c'était pas de rester bloqué par rapport à ce qu'on pouvait analyser selon notre propre perception, mais l'important, c'était de saisir les réalités spirituelles que Jésus communique. Et l'apôtre Paul exprime que si à un moment donné, on a pu être bloqué, sclérosé dans une connaissance intellectuelle, ce qui nous permet, et c'est la suite des versets, de pouvoir vivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Si nous pouvons expérimenter cela, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons laissé notre intelligence, laissé notre propre nature, laissé notre connaissance des choses, mais nous avons laissé toutes ces choses pour venir vers Jésus-Christ, non pour dire « mais ton témoignage n'est pas vrai », non pour expliquer à Jésus-Christ que ce qu'il dit n'est pas la vérité, mais pour dire « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être enseigné de toi ». J'ai besoin de comprendre cet amour. J'ai besoin, peut-être ce soir, j'ai besoin de comprendre que je suis dans les ténèbres et qu'effectivement, j'ai besoin de cette lumière. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est cette phrase qui peut sembler terrible, que Jésus-Christ va dire. C'est le verset 21 de ce chapitre 8. « Je m'en vais et vous me chercherez et vous, vous mourrez dans votre péché. » Quand on lit ça, on se dit, mais c'est dur, c'est dur. Jésus est là, pourtant, on sait qu'il est rempli d'amour. On ne l'a pas lu, mais quelques versets avant, il est question d'une femme adultère qui est là, prise en flagrant délit, et Jésus va avoir compassion d'elle. On sait qu'il n'y a que de l'amour dans le cœur de Jésus-Christ. Pourtant, il y a la vérité. Et on ne peut pas séparer l'amour de la vérité, on ne peut pas enlever la vérité à l'amour, sinon ça serait libre cours à toutes les possibilités, à tout ce qu'on peut penser, mais l'amour va avec la vérité va avec l'amour, et Jésus ainsi exprime cette pensée qu'il va vraiment marquer d'autant plus au verset 24, pardon, lorsqu'il va dire « mais c'est pour cela que je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il y a cette réalité spirituelle, cette réalité auquel tous les hommes, les femmes, les êtres humains sont confrontés. Ce que la Bible appelle le péché est simplement c'est le fait de manquer le but. On le dit souvent, on le rappelle souvent, le mot péché, littéralement, c'est manquer la cible. Alors qu'on a un arc, on tire une flèche, la flèche au lieu d'aller au centre de la cible va à 20 mètres plus loin, à côté. Et le mot péché c'est ça, c'est manquer la cible de notre vie, manquer le but de notre vie. Et Jésus-Christ exprime simplement qu'il y a cette réalité que sans lui on est perdu, que l'être humain est perdu, que l'être humain a été contaminé par cette maladie spirituelle dont il ne peut pas s'en sortir. On aimerait ce soir pouvoir peut-être imaginer qu'il y a une solution en disant « mais dans mes capacités, dans mes forces, il y a une possibilité, il y a quelque chose de bien, je peux peut-être m'en sortir, mais ce n'est pas le cas ». De la même manière que Jésus expose son amour et la vérité, il a voulu faire comprendre à ces hommes qui étaient là que sans lui, si on reste dans le péché, si on choisit finalement de passer notre chemin sans prêter attention à Jésus-Christ, alors au final, en fin de compte, on choisit de rester dans notre péché. On choisit de rester loin de Dieu. On choisit de rester sous la condamnation. Parce qu'il y a quand même cette pensée dans le cœur du Père, c'est que il ne voulait pas qu'on soit sous la condamnation, il ne voulait pas qu'on puisse périr. C'est pour cela qu'il a voulu, volontairement, parce que Jésus-Christ a accepté de son plein gré de sa propre volonté d'être dépouillé pour venir dans ce monde. Et va dire cela juste avant, et ça peut peut-être choquer dans le même ordre d'idée que ce verset, il va dire « Mais vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut ». Je pense qu'une autre personne viendrait nous dire cela, on se dirait « Mais waouh, cette personne, elle se prend pour quelqu'un d'important ». On pourrait dire « Mais c'est audacieux, c'est quand même fort de dire « Mais vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut ». Mais il y a cette explication qui est remplie d'amour et qui s'explique lorsque Jésus-Christ va dire « Mais vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde ». Autrement dit, il est en train d'expliquer « Mais vous êtes séparés d'avec Dieu ». Parce que c'est ça le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça le fait de vouloir rester dans son péché. C'est ça le fait de vouloir rester loin de Dieu. C'est ça le fait de mourir dans notre péché. C'est de rester dans le monde alors que Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'on puisse être avec lui. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a une séparation spirituelle. Et bien sûr, Jésus-Christ veut nous amener à considérer, non pas pour nous accabler, non pas pour dire « mais voilà, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, on n'a rien à faire ensemble ». C'est pas comme ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde. D'ailleurs, plus tard, il pourra dire à ses disciples, lorsqu'il va prier au Père, alors que ses disciples sont là, c'est avant la crucifixion, il pourra dire « mais le monde les a haïs en parlant de ses disciples ». Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et là, c'est cette solution, c'est l'invitation de Dieu pour chacune de nos vies ce soir. C'est de comprendre que, effectivement, nous sommes séparés. Effectivement, Dieu, lui, est en haut. Nous sommes en bas. Mais il y a eu un pont. Il y a eu une possibilité de rejoindre Dieu. La séparation n'est pas définitive parce qu'il y a cette solution manifestée en Jésus-Christ. Il y a cette réalité, c'est que nous, on était dans les ténèbres et on est dans les ténèbres tant qu'on n'a pas été éclairé. Mais ce qu'va faire Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plus que venir éclairer nos ténèbres. Et c'est cela qu'il est en train d'expliquer. C'est plus que venir allumer une bougie dans une pièce noire. En disant, en nous faisant dire, croire que, ben voilà, ça va pas si mal que ça. C'est pas cela dont il est question, ce n'est pas cela que Jésus a fait. Parce que la séparation était effective. Jésus n'a pas allumé une lumière dans les ténèbres, Jésus nous a fait sortir des ténèbres. C'est cela son plan d'amour, c'est cela qu'il y avait dans son cœur. Lorsqu'il dit tout cela, ce n'est pas pour nous condamner en disant « mais il y a le péché ». Lorsqu'il dit cela, c'est comme pour nous dire « mais voilà le constat, voilà la situation, voilà la photographie de ton âme, de notre âme à tous. Voilà la radio intérieure de ce qui se passe en nous, mais voilà la solution. Jésus est le seul capable de nous faire passer des ténèbres à la lumière ». Ne restons pas bloqués sur notre intelligence, ne jugeons pas selon la chair. Ne restons pas bloqués parce que la Bible mentionne le péché, alors ça peut-être nous heurter, nous blesser, peut-être nous vexer, peut-être qu'on peut croire qu'on est des personnes extraordinaires, mais oui, comme la Bible le dit, nous sommes des créatures merveilleuses. C'est un fait. Mais nous sommes en proie au péché, et il fallait que Jésus-Christ puisse venir. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est cette réalité, et on continue dans ces quelques versets de ce chapitre 8 de l'évangile de Jean. C'est lorsque Jésus-Christ va dire, et c'est quelque chose de tellement important, au verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et c'est là la solution, le cheminement vers lequel Jésus voulait aller, et peut-être ce soir ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une progression, c'est qu'il y a des étapes, c'est qu'il y a des pas à faire par la foi, c'est qu'il y a un engagement peut-être de notre part, mais ce qui va tout changer, c'est de ne pas être fixé sur notre péché, parce qu'on peut passer une vie en se frappant la poitrine en disant « je suis pécheur », mais rien ne va changer si on fait ça. On peut passer une vie à se meurtrir en disant « mais je suis dans les ténèbres, je veux la lumière ». On peut passer une vie à, excusez-moi la comparaison, mais c'est pour imager, on peut passer une vie à chercher l'interrupteur d'une pièce dans l'obscurité sans jamais le trouver. Ce n'est pas cela qui va changer. Ce qui va changer, c'est ce que Jésus va dire, c'est « vous allez connaître lorsque vous allez voir le Fils de l'homme élevé ». Autrement dit, c'est que là, vous allez comprendre quand il y aura la croix. Là, vous allez pouvoir saisir. Là, il va se passer quelque chose. Dans ta vie, il va se passer quelque chose lorsque tu ne seras pas fixé sur toi, lorsque tu ne seras pas fixé sur ton mal-être, lorsqu'il va se passer quelque chose, lorsque tu vas regarder la croix, lorsque tu vas considérer que Jésus-Christ s'est dépouillé, non pas pour venir dans ce monde pour régner, non pas pour prendre la place des dirigeants, il aurait pu. Il aurait pu dire, mais voilà, maintenant j'ai la solution, on va faire ceci, cela, et vous allez voir, ça va aller. Il aurait pu, mais ce n'est pas comme ça qu'on aurait pu être sauvé. Jésus est venu pour aller, pour accepter ces clous qui vont percer ses mains et ses pieds, pour qu'on puisse nous comprendre que la véritable vie dépend de sa mort. Que nous puissions saisir pleinement que la connaissance vient non pas de nous, non pas de notre réflexion, encore une fois, je le répète, excusez-moi, mais la connaissance de la vie vient de la croix de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Jésus est venu pour accomplir. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions rester bloqués sur notre péché seulement, mais Jésus est venu pour nous donner la solution. La version David Martin nous dit, ainsi donc, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis l'envoyé de Dieu. » Là, vous allez connaître. Et on pourrait faire le parallèle, vous allez connaître non pas intellectuellement, mais avec votre cœur. Là, devant la croix. Alors bien sûr, nous sommes libres. Bien sûr, ce soir, on n'est pas là pour obliger, on n'est pas là pour dire « il faut faire ceci ou cela ». La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, beaucoup de personnes vont passer pour lire la pancarte. Beaucoup de personnes passent, beaucoup de personnes critiquent, beaucoup de personnes se moquent, beaucoup de personnes font ceci ou cela. Mais qui ce soir veut s'arrêter à la croix? Qui ce soir veut comprendre avec son cœur que ce que Jésus accomplit, c'était parce que nous en avions besoin? Que ce que Jésus a accompli, c'était plus que venir pour marquer l'histoire d'un point de vue historique, d'un point de vue politique ou que sais-je, philosophique. Si Jésus venait, c'était pour marquer l'humanité, pour notre salut. Vous connaîtrez alors que je suis l'envoyé de Dieu. Vous connaîtrez. Il y a une connaissance, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir, mais il y a des choses qu'il faut qu'on expérimente. Il y a des choses à prendre par la foi. La Bible nous dit que c'est à ce moment-là que les hommes, les juifs vont croire. Ce n'est pas avant qu'ils vont croire. Le verset 30 nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Quand il y a la croix, c'est là qu'on peut manifester notre foi. Lorsqu'il y a de l'espoir pour notre vie, lorsqu'on comprend que notre vie n'est pas appelée à demeurer et à rester tous les jours dans les ténèbres, lorsqu'on comprend qu'il y a une possibilité pour nous d'être éclairés, d'avoir la lumière qui nous donne la vie, d'avoir la paix, d'avoir la joie, le bonheur, l'espérance, lorsqu'on comprend toutes ces choses, alors il est peut-être plus aisé de manifester la foi en disant « mais je veux croire ». Je veux aller dans cette direction. On peut essayer beaucoup de choses, beaucoup de chemins dans ce monde. On peut essayer de dire, de prouver, parce qu'on a ce côté un peu où l'on aime contester, où l'on aime prouver, peut-être que c'est nous qui avons raison. On peut essayer beaucoup de chemins, mais un seul mènera à la vie éternelle. On peut essayer beaucoup de choses, mais un seul nous mène dans la vérité. On peut essayer beaucoup d'expériences dans ce monde, mais une seule pourra nous affranchir. Et c'est ce que va dire Jésus après. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, parce que c'est cela le cadeau de Dieu. C'est cela, ce n'est pas rester dans l'esclavage, ce n'est pas rester sous le poids de la culpabilité, ce n'est pas rester sous le poids des remords, sur le poids de ce qu'on aurait aimé faire, ce que l'on aurait aimé dire, ce que l'on aurait aimé peut-être entreprendre dans ce monde. Ce n'est pas ça la vie, mais la vie c'est Jésus, la vie c'est Christ, et nous l'avons parce qu'il s'est donné volontairement sur le bois de la croix. Ce verset, il y a un verset qui m'a particulièrement touché, et je ne vais pas tarder à finir, mais c'est ce verset 40. Vraiment, on continue, on poursuit, et Jésus vraiment amène les hommes religieux, amène les juifs à saisir ce message d'amour qu'il veut communiquer. Et alors qu'il expose toutes ces vérités, toutes ces merveilles, toutes ces révélations, les pharisiens, les juifs étaient là, ceux qui n'ont pas cru, n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était de le piéger, c'était de leur expliquer à Jésus que c'est lui qui se trompait, c'était ceci ou cela. Mais Jésus va dire, vous cherchez maintenant à me faire mourir. Je le lis dans une autre traduction. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue auprès de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Pourtant, pour ceux qui sont accoutumés à lire la parole de Dieu, on pourrait se dire, Abraham, waouh, il en a fait des choses. Il a expérimenté l'amour de Dieu, l'intimité de Dieu. Il a expérimenté des directions précises. Il a expérimenté la puissance. Il a expérimenté tellement de choses. Mais est-ce que quelqu'un d'autre que Jésus-Christ aurait pu dire, mais moi j'ai entendu des choses de Dieu, j'ai entendu de mon Père ce que je devais vous dire, j'ai entendu ce qu'il y avait sur le cœur du Père pour vous les dire à vous. Et vous savez ce qu'il y avait dans le cœur du Père? Ce qu'il y avait, moi je pense, ce qu'il y avait dans le cœur du Père qu'il a voulu communiquer à Jésus-Christ. Je ne sais pas si on s'imagine ce que ce verset représente. Le Père, celui par qui tout subsiste, rien dans le monde ne peut subsister sans Dieu, a voulu dire des mots d'amour pour l'humanité, à Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous les retransmettre. Il a voulu dire, mais parce que j'ai tellement aimé le monde, Jésus. Je paraphrase, mais on comprend, c'est dans Jean 3,16. Parce que j'ai tellement aimé le monde, Jésus, que j'ai voulu te donner. Il y a de l'amour dans le cœur du Père. Il y a de l'affection pour nous. Il n'y a pas du jugement, il n'y a pas de la condamnation. Il y aura un temps pour la condamnation, il y aura un temps pour le jugement. Il y aura un temps pour tout cela, mais aujourd'hui c'est un temps où le cœur du Père est rempli d'amour, où le cœur du Père nous amène à comprendre que sans Christ on est perdu, mais avec lui, nous aussi on peut entendre ce que Dieu veut nous dire. Nous aussi on peut rentrer dans cette intimité où nous pouvons dire « mais j'ai entendu Dieu me parler, j'ai entendu Dieu me donner une direction pour ma vie, j'ai entendu Dieu me montrer vraiment ce qu'il n'y avait pas encore de réglé dans ma vie ». Non pas pour me faire de la peine, mais pour m'amener à mieux le connaître, pour m'amener à mieux le comprendre. Ce soir, Dieu a parlé au travers de son Fils pour que nous puissions saisir son amour. Et je pense que c'est difficile de rester loin de cela. Pourtant, c'est un choix. Je terminerai avec ces versets quand même. Parce que c'est là le titre de mon message. Je pense, peut-être que je me trompe, mais c'est, on pourrait dire, pas l'apogée, mais là où vraiment nous pouvons expérimenter l'amour de Jésus, c'est plus esclave mes fils, plus esclave mes fils. Parce que Jésus-Christ va leur dire, en vérité, je vous le dis, Celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Le Fils, lui, vous allez dire, il ne faut pas être un grand théologien pour dire ça, le Fils, lui, ce n'est pas l'esclave. Le Fils, lui, il peut demeurer, rester, habiter dans la maison de Dieu. Le Fils, lui, il peut connaître, entendre la voix de Dieu. Le Fils, lui, il peut être au bénéfice des grâces de Dieu, des grâces du Père. Le Fils, lui, il peut avoir part à l'héritage de Dieu. Le Fils, lui, il a les droits. L'esclave, il n'a pas de droits. Et je pense vraiment, profondément, qu'on n'est pas appelé, et c'est là le but, la venue de Jésus-Christ, on n'est pas appelé à être des esclaves, à être en dehors de l'Alliance, à être en dehors de la présence de Dieu, à être en dehors des bénédictions, à être en dehors du pardon, parce qu'on a besoin d'être pardonné. On a besoin de comprendre que notre vie sans Christ, c'est une vie qui est loin de Dieu. On a besoin de comprendre que c'est la repentance, c'est le fait de demander pardon à Dieu qui nous approche de lui, ce n'est pas les œuvres. On a besoin de comprendre que Dieu ne veut pas qu'on soit loin, ne veut pas qu'on soit esclave, parce qu'un jour, comme le texte nous le dit, l'esclave, lui, ne demeure pas toujours avec le Père, dans la maison. L'esclave, lui, lorsqu'il y aura le jugement, pour reprendre cette strophe de ce chant, l'esclave, lui, verra la porte fermée. Mais le fils, lui, verra cette porte ouverte. Le fils, lui, pourra se réjouir. Romains 8 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lesquels nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Voilà la promesse, voilà ce qui attend toute personne qui peut-être met sa connaissance de côté, comprend qu'il y a le péché, mais comprend qu'il y a eu la croix, que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être héritiers et co-héritiers avec Christ. J'aimerais terminer en vous citant juste ce passage dans Ésaïe. Je l'avais à cœur, peut-être que c'est pour une personne en particulier. Vous allez voir qu'on peut faire le lien quand même avec ce texte. C'est Ésaïe 60 nous dit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire, dans ta vie, dans ta personne. Tu donneras à tes murs, tu donneras à ta vie le nom de salut parce que tu auras expérimenté, je rajoute, et à tes portes celui de gloire parce que nous avons l'espérance de Christ. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. » Amen, j'avais vraiment ce passage sur le cœur, peut-être c'est pour quelqu'un, mais en tout cas que nous puissions être bénis par la parole de notre Seigneur ce soir. J'aimerais terminer en priant, si vous le voulez bien. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes. Merci pour cette intimité que Jésus-Christ avait avec toi, pour que tu puisses lui parler, pour qu'il puisse avoir entendu les paroles que tu voulais qu'il donne à l'humanité. Merci parce que tu nous révèles que nous étions, que nous sommes pécheurs. Tu nous révèles que nous sommes dans les ténèbres. Tu nous révèles notre état, notre misère, mais tu nous révèles aussi la solution en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la croix. Nous voulons croire que à la croix, Jésus a tout payé. Et nous voulons nous approcher de la croix par la foi en disant « Seigneur, viens dans ma vie ». Merci de nous guider, de nous aider. Seigneur, comme nous l'avons lu, nous ne voulons pas que ce soit les événements, les éléments extérieurs qui constituent la lumière, le soleil de notre vie. Mais nous savons que c'est toi notre lumière et nous savons qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation en ta personne. C'est pour cela que, avec assurance, ce soir, nous pouvons proclamer que c'est toi notre soleil, que c'est Jésus notre lumière et c'est Jésus qui veut nous éclairer pour nous apporter la vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.